بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 23 du mois Shawwal de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 11 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette rencontre hebdomadaire afin d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim. Et aujourd'hui, nous allons lire ensemble Sourate al-Fatiha et des bases et des fondements de notre religion. Donc, on commence directement par notre premier récitateur ou récitatrice, celui qui aimerait commencer par lire, il ouvre juste le micro et je vais désigner son prénom. Donc on va commencer par Ahmad.
Salam
alaykoum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سي أحمد.
نعم.
كم بلغت من العمر؟
9.
9 سنوات، ما شاء الله، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أنت تدرس في مدرسة قرآنية أو شيء هكذا؟ عندك مدرس للقرآن؟
في بيتي.
ما شاء الله. كيف تتعلم تجويد؟ مع أحد والديك؟
نعم.
ما شاء الله، أحسنت، قراءتك طيبة، بارك الله فيك ونفع الله بك. طيب، ننتقل للذي بعده وهو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من عبد الله؟
عبد الله 7 سنوات.
Non, j'ai 8 ans.
Ouais, il faut corriger sur sur ton profil, c'est marqué Abdullah, 7 ans. Anna, je lis juste ce qu'il y a devant moi.
C'est un autre, c'est Myriam et Abdullah.
Non, non, c'est pas eux, c'est celui où c'est marqué seulement Abdullah. Et après toi, ça sera Myriam et Abdullah. Ou toi, c'est plutôt ce Abdullah avec Myriam.
Oui.
D'accord. Est-ce que l'autre Abdullah est disponible? Il est prêt? Tfaddal. Et après toi, ça sera Abdullah et Maryam. Chauf, Abdullah, prends ton temps. On n'est pas pressé. La sourate, elle est courte. Et il faut savoir que cette sourate, c'est la sourate la plus magnifique et la plus importante et la plus sublime de tout le Coran. Donc, on va prendre notre temps dans la lecture. Comme la récitation de Ahmed. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
الحمد لله رب العالمين
رب العالمين
رب العالمين.
Prononce bien sur le bas, il y a une chadda, donc faut appuyer. Rabbi al-alamin.
Rabbi al-alamin.
Ahsant.
Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-ladhina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت. نعم, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Je voulais le dire, lakin j'ai oublié. Anna amin, normalement, ça se dit dans la salat. Amin, c'est quand on a récité le Fatiha dans la salat. Lakin, à ma connaissance, Nabi alayhi salam, c'est pas rapporté de lui qu'il disait amin à chaque fois qu'il lisait surat al-Fatiha. C'est pour ça, le mieux, c'est de dire amin uniquement dans la salat. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. طيب عبد الله الثاني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
يا عبد الله يا عبد الله يعني les dernières lettres de chaque verset faut faire attention à bien les prononcer. Là, si tu fais pas attention, tu vas avoir tendance à pas les prononcer ou les prononcer d'une manière faible. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
D'accord.
تفضل.
مالك يوم الدين.
مالك يوم الدين. Regarde نون à la fin comment je le prononce. مالك يوم الدين.
مالك يوم الدين.
أحسنت.
إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
السين السين elle est faible, يعني مرققة. Donc pour la distinguer de صاد tu dis اهدنا الصراط المستقيم. Quand tu prononces sin, il faut qu'on entende un sifflement. Al-mustaqim. Al-mustaqim.
Al-mustaqim.
Non, tu dis al-mus. Ça, c'est sad. Sin, c'est, elle est faible. Al-mus. Al-mus. Comme quand tu dis mousse. Tu sais ce que c'est un mousse?
Oui.
Tu dis pas mousse. Donne-moi le mousse. Tu dis, donne-moi le mousse. يعني, al-mousse, al-mustaqim.
Al-mustaqim.
Naam.
Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayr al-maghdubi alayhim. Wa al-dallin.
MashaAllah, ahsant. Barakallahu fik. Ta sœur veut lire aussi?
Non, elle est pas là.
D'accord. Donc on va passer à Adama.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tafaddal ya akh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
المست la même remarque par rapport à sin. اهدنا الصراط, regarde le premier, la première, la première lettre c'est un sad, c'est pour ça on dit اهدنا الصي الصي اهدنا الصراط المس المس يفوك السوا مرققة فاهم
دينا الصراط المستقيم
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 طيب
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك
ما شاء الله
يلا يلا تفضلي لا سور دو ادم كومون تي تابيل ما اسمك
حفصه
حفصه ما شاء الله كم بلغتي من العمر ست سنوات ما شاء الله بارك الله فيك تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ما شاء الله بارك الله فيك يا حفصة ونفع الله بك جزاك الله خيرا طيب ننتقل إلى أميمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستاذ est-ce que mon petit frère peut réciter
باقي on n'a pas fini avec toi يعني الضالي الضاء ولا الضالين répète
ولا الضالين
أحسنتي aussi la lettre القاف دي قا
قا
non قا
قا
c'est pas قا قا c'est une autre lettre قا
قا
أحسنتي donc il faut que tu t'entraînes souvent tu fais ça pendant 3 jours ou 4 jours et ça va tu vas la prononcer correctement Lakin, plusieurs fois dans la journée, deux fois, trois fois dans la journée, tu t'entraînes à dire qa, qu, qi, qa, qu, qi. Répète une fois.
Qa.
Qa. Est-ce que tu vois la différence quand tu dis qa, qa?
Oui.
Non, mais il faut faire attention à ne pas confondre le qa et le ka. Qa. Qa, c'est une lettre qui n'existe pas en français. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal au début. Là, qu'il suffit de s'entraîner 3 jours, et bien là, tu vas la prononcer correctement. Qa, qu, qi. Naam.
À un moment donné, vous nous faire quitter le...
Stade.
Naam.
Non, mais il
n'y
a pas. Il y a
qa,
il y a de la
corge. Naam, ahsanti. Donc, entraîne-toi et passe-nous... ton petit frère ou là, ta petite sœur qui veut lire. Quel âge elle a ou là, il a
Il a 7 ans.
7 ans. Et Allah, on l'écoute.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
أيوة
اهدنا
صراط المستقيم
صراط
يلا اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين صراط الذين Tu t'appelles comment?
Younes.
Younes, mashallah. Que signifie la ilaha illallah? Est-ce que tu comprends la ilaha illallah?
Non.
La ilaha illallah, ça veut dire, ça signifie que personne ne mérite l'adoration excepté Allah. Si je te dis, il est où Allah? Comment tu réponds?
Au-dessus des cieux.
Masha'Allah. Masha'Allah. Allahumma barik. Donc, tu t'exerces à réciter le Fatiha, à écouter le Fatiha. Écoute-la en boucle. Mais un récitateur que tu aimes bien. Et écoute une vingtaine de fois. Et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de facilité. Sinon, barakallahu fik pour tes bonnes réponses. Jazakallahu khair. Donc, on va passer au suivant. Ismail.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakallah akhi. Kam balaght min al-umr?
Moi, je parle français.
Quel âge as-tu?
14 ans.
14 ans. Faut que tu te mettes à parler arabe.
Ouais, je commence à apprendre un peu.
C'est bien. Ah, pas un peu, un peu beaucoup. Lana, c'est le moyen de comprendre le Coran et de comprendre la parole d'Allah, la parole du prophète, salam, et de comprendre la religion d'une manière générale. Il est très important. Et comme je vous dis souvent, les ennemis de l'islam ont trouvé que le meilleur moyen pour affaiblir les musulmans, comme ils le sont aujourd'hui, c'est de les éloigner de la langue arabe. Donc toi, il faut que tu apprennes la langue arabe pour te rapprocher de ta religion. Et tous, on est censé le faire. Et alhamdoulilah, moi aussi je le fais avec vous. J'apprends la langue arabe, alhamdoulilah, presque tous les jours. Alors, on t'écoute, ya Ismaïl.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
مالك يوم ينكسر سر الميم
مالك يوم الدين
أحسنت
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.
La même erreur avec sin. Al-mus. Chouf. Al-mustaqim. Pas al-mus. Al-mus.
Al-mus.
Ahsant.
Al-mustaqim.
Ahsant.
صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ما شاء الله اللهم بارك بارك الله فيك يا اسماعيل جزاك الله خيرا on passe au suivant زيد
انا السلام عليكم
وعليكم السلام
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم بارك أمتعتنا بهذه القراءة الطيبة، جزاك الله خيرا.
وأنتم فجزاكم الله خيرا.
الذي بعده، إسماعيل وإسحاق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي إسماعيل؟ Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu.
الحمد لله.
Tu vas bien؟
الحمد لله.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا.
اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط.
اهدنا الصراط المستقيم.
با صراط. تا سي نوتخل اتر ان عرب. سا سي با تا. يا با يا تا. اهدنا الصراط.
اهدنا الصراط المستقيم.
احسنت.
صراط الذين.
صراط. encore une fois.
صراط. صراط.
Comme quand tu prononces ta en français, tu dis ta valise ou la ta, c'est là, ça se prononce de la même manière. Sera ta. Pas ta. Tu dis sera ta. Sera ta.
أحسنت. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ahsant, ahsant, barakallahu fik. La même astuce. Par exemple, chacun d'entre vous qui constate qu'il a des petites lacunes au sujet de la prononciation d'une lettre, il s'exerce à la répéter. Par exemple, Ismaël, tu répètes ta, to, ti. Ta, to, ti. Et tu fais ça pendant un quart d'heure, deux fois par jour, ou la même une fois, et tu vas constater au bout de trois jours, tu vas la prononcer facilement. La nala, ça fait plusieurs années que tu dis ta. Pour rectifier ça dans ton cerveau, ça demande un petit peu d'effort. Barakallahu fik ya Ismaël. Donc on passe au suivant.
Anna.
Masmouka ou Masmouki.
Asia.
Asia. Tafaddali ya Asia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ.
الحمد لله.
الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله، اللهم بارك. بارك الله فيك يا آسيا. تا 5 ans. Toi, t'es qui ?
Oui.
T'es le frère de Asia ? Ah, c'est ton frère ?
Oui.
T'as quel âge ?
Il est trop petit.
Il est trop petit ? Mashallah. Taïb. On va passer à Ahmed. Ou là plutôt Daoud. C'est qui, c'est Ahmed ou Daoud?
C'est Daoud.
Daoud. Toi, t'as quel âge, Daoud?
8 ans.
8 ans, mashallah. Alors, on t'écoute.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله اللهم بارك. Ça c'est une récitation qui peut être une récitation modèle. اللهم بارك. Elle est meilleure que ma récitation, à part ta que tu as prononcé comme à la marocaine. An'amta. Yani la prononciation correcte de ta en arabe, c'est de dire ta. An'amta. An'amta. Et dans notre dirigeant, on rajoute un petit signe. On dit an'amta. Ta. An'amta. Ce qui est plus correct, c'est de dire « an'amta ».« An'amta ». Lakin, ne pas la prononcer comme un « ta » non plus. De ne pas dire « an'amta ». C'est entre les deux. « An'amta ». Barakallahu fik ya Daoud. Jazakallahu khairan. Qira'a jamila jiddan. Nafa'allahu bik.
Wa fika barakallah.
Taïb, on passe à un dernier peut-être. Khadija.
Mariam.
Mariam. طيب. Pas de problème.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ما شاء الله اللهم بارك. Tu récites en courant?
Non.
Allez, tu vas vite. Lakin c'est bien. Tu as bien récité اللهم بارك. بارك الله فيك.
Khadija.
Khadija veut lire aussi?
Oui.
Alors on l'écoute. Ça sera la dernière, inshallah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
T'as vu, t'es essoufflé là. Dans la lecture, il ne faut pas être essoufflé. Il faut prendre son temps et respirer. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Chouaïe, chouaïe. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran tous. Pour cette toutes ces belles récitations. Taïb. Donc, on va prendre une explication simplifiée. Yani, quand on parle de Sourate al-Fatiha, on parle de Sourate la plus sublime du Coran. Et on parle de Sourate qui englobe tous les sens du Coran. Donc, cette Sourate, on peut l'expliquer yani, d'une manière à parler de tout ce qui fait partie de l'islam. Lakin, ce qu'on va prendre ensemble, c'est une explication simplifiée, comme tout ce que nous faisons ensemble, inshallah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, cette surah d'abord, il faut savoir que c'est une surah mekkoise, c'est-à-dire elle a été révélée à Mecca. Et la récitation de cette surah est un pilier dans la salat. C'est-à-dire celui, yani tout nouveau musulman doit apprendre surat al-Fatiha afin que sa salat soit valide. Et en attendant de l'apprendre, pour celui qui ne sait pas la lire, alors il peut dire à la place Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. En attendant de l'apprendre. Donc c'est une sourate très importante. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim, le basmala, avec laquelle débutent toutes les sourates du Coran, excepté sourate At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah. C'est-à-dire, tu commences ta récitation et ta lecture au nom d'Allah, en cherchant bénédiction dans le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Bismi, Allah, c'est le nom le plus sublime des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui englobe tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on connaît, il nous a fait connaître 99 noms de ces noms. Parmi ce qui est les noms d'Allah qui sont rapportés dans le Coran et dans la sunna authentique de son prophète Aïssa al-Salam. Mais les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont infinis. Car les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont en lien avec sa sublimité et sa grandeur et sa magnificence. Et tous ces sens-là sont infinis en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je dis Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. C'est encore deux noms d'Allah, ar-Rahman et ar-Rahim, qu'ils traduisent par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, chaque nom d'Allah indique un de ses attributs. Quand on a cité le nom Allah, il indique quel attribut? Qui peut me le dire? Parmi vous, c'est quoi l'attribut qu'indique le nom Allah?
Al-Ilah.
Al-Ilah, c'est le nom. Al-Ilah, c'est la même chose que Allah. Il y a juste. Naam.
Al-Ma'luh.
Al-Ma'luh, c'est le sens de l'Ilah. Al-Ilah, c'est lui qui est Ma'luh. Lakin l'attribut, c'est Al-Uluhiyya. Al-Uluhiyya, ou l'Ilahiyya. C'est pour ça que nous avons une catégorie de, parmi les trois catégories de Tawhid qui s'appelle Tawhid.
Rububiyya.
Tawhid Rububiyya. La deuxième catégorie, c'est quoi?
Uluhiyya.
Tawhid l'Uluhiyya, ahsantum. Et la troisième, c'est Tawhid l'Asma wa Sifat. Donc Tawhid l'Uluhiyya, que signifie Tawhid l'Uluhiyya? Ça veut dire réserver toutes nos adorations à Allah seul. Et ne jamais réserver une adoration à autre qu'Allah. Que ce soit un prophète, un messager, un ange très proche d'Allah comme Jibril, l'adoration c'est le droit exclusif d'Allah. Et celui qui adore autre qu'Allah, il est sorti de l'islam. Car l'adoration c'est le droit exclusif d'Allah. Et personne ne doit adorer. Personne n'a le droit d'adorer autre qu'Allah, quel que soit son rang, quel que soit son mérite. Car, quel que soit son mérite, il restera une créature. Et l'adoration, c'est le droit du créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est pour ça, notre religion est une religion de pur monothéisme. C'est une religion de pur monothéisme. Donc, c'est quoi l'attribut ? Dans le nom d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. C'est le même. C'est l'attribut de
Ar-Rahman.
Ar-Rahman, ahsant, la miséricorde. Donc Ar-Rahman et Ar-Rahim, tous les deux indiquent l'attribut de la miséricorde. Allah, il est le miséricordieux par excellence. Allah, il est décrit par la miséricorde dans son essence. Et c'est ce que indique le nom Ar-Rahman. C'est un attribut de l'essence d'Allah. Allah en lui-même, il est décrit par la miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Et Ar-Rahim indique l'attribut de la miséricorde dans les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce que Allah fait, il y a de la miséricorde. Allah, il est décrit lui-même dans son essence par la miséricorde. Et ce qu'il fait comporte sa miséricorde également. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim. Ensuite, le premier verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de le Seigneur de l'univers. Rabbi al-Alamin, ou le Seigneur des mondes. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Yani tous les mondes qu'Allah a créés. Le monde des anges, le monde des humains, le monde des animaux, le monde des oiseaux, et ainsi de suite, des plantes et des végétations. Tous les mondes qu'Allah a créés, il est leur maître absolu. Et il est leur souverain suprême, subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui a tout créé. Et par conséquent, il est le seul qui mérite l'adoration. Car celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui a créé et qui a tout donné. C'est Allah, seul. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Et donc, quand on dit Alhamdulillah, ça indique l'unicité de... Quelle catégorie de l'unicité indique notre parole Alhamdulillah? L'unicité de la...
Tawhid.
Quel Tawhid? L'Uluhiyya, Ahsant. Ahsant. Pourquoi? Parce que Alhamd, c'est une adoration. Louer Allah est une adoration. Et donc, le louer seul, c'est du Tawhid, l'Uluhiyya. Rabbi al-Alamin, indique quelle catégorie de Tawhid?
Rububiyya.
Ahsant.
Rububiyya.
Ahsant.
Rububiyya.
Car Rabb indique, يعني, Tawhid al-Rububiyya. Allah, il est, subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur et le Souverain. C'est lui, Rabb, alladhi yurabbi al-ibada bin-ni'am. C'est lui qui accorde les bienfaits et les faveurs à ses serviteurs. Il nous accorde les bienfaits, subhanahu wa ta'ala. Et tout bienfait en nous provient d'Allah. Qui peut me citer le bienfait le plus grand qu'Allah nous a accordé à nous qui sont tous présents dans ce cours? Naam. L'islam. Ahsant. Ahsant. L'islam. Le plus grand bienfait qu'Allah accorde à un serviteur, c'est l'islam. Et d'ailleurs, sans le bienfait de l'islam, il n'y a pas un bienfait en réalité. Car la personne qui n'a pas l'islam et qui a joui des bienfaits d'Allah sur terre, comme le sommeil, comme la nourriture, comme la boisson, comme la santé, comme l'argent et la richesse, elle va devoir rendre compte sur tous ses bienfaits. Car ses bienfaits sont autorisés seulement pour celui qui a adoré Allah sans rien lui associer. Mais pour le musulman, tout ça c'est des bienfaits. Après le plus grand bienfait, qui est le bienfait de l'islam et de Tawhid. Et après le bienfait de l'islam et de Tawhid, quel est le deuxième plus grand bienfait? Et c'est aussi un bienfait religieux. Et c'est la signification de la deuxième attestation de foi.
La salat?
La guidée?
Et Annie, la guidée, c'est plus général. La guidée, c'est le plus grand bienfait, ça englobe tout ça. Naam? Répète. Il nous a envoyé un prophète. Ça, c'est un bienfait immense. Lakin, plus grand que le bienfait de t'avoir envoyé un prophète, de te permettre de le suivre. Car combien de gens ne suivent pas le prophète? Donc, le plus grand bienfait, c'est le bienfait de Tawhid de l'islam. Mais pas tous musulmans, comme vous le constatez, suivent minutieusement le prophète alayhi salam dans toutes leurs adorations. Il y a beaucoup de musulmans qui font des innovations, des adorations que le prophète alayhi salam n'a jamais enseignées. Et ça, ce n'est pas autorisé. Donc le deuxième plus grand bienfait, c'est le bienfait de te permettre de suivre le Nabi alayhi salam dans toutes choses. Et ensuite, vient les autres bienfaits. Et les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont indénombrables. Tu ne peux jamais les compter. Si je te laisse pendant un siècle et je te demande de me citer les bienfaits d'Allah, tu ne vas pas arriver à bout de ces bienfaits. Comment arriver au bout des bienfaits d'Allah alors qu'il y a une grande partie de ces bienfaits que tu ignores, que tu ne connais même pas? Il n'y a pas que les bienfaits dont on a conscience. il y a des bienfaits que ne connaissons pas. Par exemple, un jour, tu marchais sur un chemin ou là, et Allah t'a préservé d'une catastrophe. Et toi, tu ne le sauras jamais, ça. Les bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont indénombrables. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Donc, on dit, Alhamdulillahi, Rabbil alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Encore une deuxième fois, ces deux beaux noms d'Allah, ces deux noms d'Allah sublimes, Ar-Rahman et Ar-Rahim, que nous avons déjà vus dans le Basmala. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, Maliki Yawmiddin. Et donc, Ar-Rahman Ar-Rahim, ça renvoie vers quelle catégorie de Tawhid? La troisième qui nous reste. Tawhid al-Asma wa al-Sifat. Tawhid al-Asma wa al-Sifat, parce que ça renvoie vers des noms d'Allah. Et Tawhid al-Asma wa al-Sifat, Sifat, c'est unifier Allah avec ses noms et ses attributs. Donc, Ar-Rahman, c'est uniquement Allah qui est Ar-Rahman. Et d'ailleurs, Ar-Rahman, c'est un nom qui ne se dit que de Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui connaît un autre nom qui se dit seulement d'Allah?
Allah?
Allah, bien évidemment. Et d'ailleurs, Allah, ce nom, Allah n'a permis à aucune créature de se faire appeler Allah. Par contre, vous trouvez des créatures qui se sont fait appeler Ar-Rahman. Alors que c'est un nom qui est spécifique à Allah. Lakin Allah n'a permis à personne de se faire appeler Allah. C'est un nom spécifique à Allah. Religieusement parlant et dans la réalité également. Personne ne se fait appeler Allah. Subhanallah. C'est pas impressionnant ça? Qui connaît un autre nom qui est spécifique à Allah?
Al-Ghafour.
Al-Ghafour? Et Annie, tu peux dire de quelqu'un qu'il est Ghafour? Il pardonne,
oui.
Lakin, il faut comprendre que quand on utilise un prénom, un nom d'Allah vis-à-vis d'une créature, ça va correspondre à la faiblesse et l'impuissance de la créature. Et quand on l'attribue à Allah, ça va correspondre à la perfection et la grandeur et la majesté d'Allah. Il y a un sens commun. On peut appeler quelqu'un Karim. On peut appeler quelqu'un Karim. Et Allah, il est le Karim. Lakin Allah, il est le généreux par excellence. Il est le généreux avec ce qu'il possède, lui. Et il est le généreux qui donne. Et que ses trésors et richesses sont inépuisables. Contrairement à un généreux parmi les créatures. Même si c'est un roi. Même s'il possède énormément de fortune. Même si c'est un milliardaire. Quand il donne de ce que Allah lui a octroyé. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, quand il donne, yani, ça diminue ses biens. Et s'il te donne une dizaine de fois, peut-être qu'il va refuser au bout de 11 fois, ou la 20 fois, ou la 100 fois. Imagine, tu viens tous les jours, tu lui demandes, il va arriver un jour, il va refuser. Il va te dire, mais faut trouver autre solution. Lakin Allah, tu lui demandes 1 milliard de fois, il te donne tout le temps. Car ses biens et ses trésors et ses richesses sont inépuisables, subhanahu wa ta'ala. Au contraire, Allah, il aime ceux qui lui demandent beaucoup. Car demander à Allah, c'est une des plus grandes adorations en islam. D'accord? Et ça, c'est quelques différences. Amma, les différences qu'il y a entre un nom quand il est accordé, quand il est attribué à Allah et à sa créature, dans le cas où c'est autorisé, sont infinis. Taïb, un autre nom qui est spécifique à Allah, qui ne se dit pas d'une créature, par exemple, Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Et ça, ça se dit d'Allah seulement. Amma chez la créature, c'est un défaut. Voilà quelques exemples. Taïb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm al-Din, maître souverain du jour de la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le maître souverain du jour de la résurrection. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, une question que je vous pose, est-ce qu'il est le maître souverain du jour de la résurrection seulement et pas des jours de dunya? C'est qui le maître souverain des jours de dunya? de chaque jour dans cette... C'est Allah. Mais pourquoi Allah, il dit le maître souverain du jour de la rétribution? Qui peut répondre? Alors, je vous donne la réponse. Écoutez bien. Allah, il dit ainsi parce que dans Dunya, il y a des gens qui s'opposent à la souveraineté d'Allah et qui renient même l'existence d'Allah et qui ne reconnaissent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le maître souverain. Mais dans le jour de la rétribution, quand ils seront tous devant Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser faire cela? Non. C'est pour ça, ce jour-là, la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala fera l'unanimité. Et c'est pour ça qu'il a dit le maître souverain du jour de la rétribution. C'est quoi le jour de la rétribution? Yawmiddin. Nan. Le jour du jugement dernier, où toutes les créatures vont devoir rendre compte pour ce qu'ils auront fait durant leur vie mondaine auprès d'Allah. Et celui qui aura fait plus de hasanat que de sayyat ira au paradis. Bien évidemment, on parle de celui qui n'a pas fait shirk. Shirk, c'est un péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Là, quelqu'un qui a fait shirk pendant son vivant, il se repent à Allah. Est-ce que Allah lui pardonne?
Oui.
Oui. Et s'il vient devant Allah, il dit, oh Allah, pardonne-moi. S'il vient devant Allah le jour du jugement dernier, il dit, oh Allah, c'est vrai, j'ai fait shirk, pardonne-moi aujourd'hui. Est-ce qu'il lui, il lui pardonnera?
Non.
Non. C'est trop tard. Quand la mort arrive, c'est trop tard. Lakin, pendant son vivant, quel que soit le péché, du moment que le serviteur revient vers Allah, Allah, il pardonne tout. Il efface tout. Il transforme les péchés en des bonnes actions. Allah aime ceux qui se repentent et qui reviennent vers lui et qui lui demandent le pardon. Et qui ne se lasse jamais de demander le pardon à Allah. Vous savez que le prophète, il demandait pardon à Allah plus de 70 fois dans une seule assise. Il est assis avec ses compagnons, il parle comme nous on fait, et il comptait, les compagnons, ils comptaient. Pendant une assise, le prophète, il pouvait demander pardon à Allah plus de 70 fois. Et même plus d'une centaine de fois. Allahu Akbar. Ça, c'est le messager d'Allah. La meilleure créature, la créature la plus aimée et la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah aime ceux qui lui demandent pardon et qui revient vers lui. Maliki yawmiddin. Donc yawmiddin, c'est le jour de la rétribution, le jour du, où toutes les créatures vont rendre compte au sujet de leurs actions. Et ceux qui auront plus de hasanat que de sayyat, c'est le paradis. Et ceux qui auront plus de sayyat que de hasanat, ils vont où? Attention, piège.
En enfer.
Question piège.
Si c'est un musulman, en enfer plus au paradis.
Anita, une bonne partie de la bonne réponse. Lakin. Si c'est, on parle de celui qui a tawhid, bien évidemment. Celui qui n'a pas tawhid, c'est l'enfer direct. On parle de ceux qui ont la parole la ilaha illallah dans le cœur, sur la langue et dans les actes. C'est ça le muslim. Amma, celui qui rencontre Allah avec shirk, ça c'est l'enfer direct. Là, on parle d'un muslim qui rencontre Allah avec plus de péchés que de hasanat. Il va où?
En enfer, après il va au paradis.
C'est Allah qui choisit s'il va en enfer ou s'il va au paradis.
Allah, c'est ça la bonne réponse. Il est sous la volonté d'Allah. C'est Allah qui va décider. Est-ce qu'il va lui pardonner? Il l'envoie directement au paradis ou Allah il décide de le châtier proportionnellement à ses péchés et ensuite le faire entrer au paradis. Dans tous les cas, notez bien qu'il doit être purifié de ses péchés. Car le paradis, c'est la bonne demeure qui est réservée aux bons et aux bonnes personnes. Aux personnes bonnes. Jamais quelqu'un ne rentre au paradis avec des péchés. Ou bien Allah il va lui pardonner les péchés. Il va au paradis directement. où Allah décide de le purifier avec le châtiment du feu de l'enfer. Et ça, c'est selon la sagesse d'Allah et sa science, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui va décider. Donc on ne peut pas dire qu'il va, dans tous les cas, en enfer. Certes, on peut dire qu'il est menacé par le châtiment de l'enfer. C'est une menace. Lakin Allah peut pardonner. Celui qui a menacé, il peut pardonner. Et il peut exécuter sa menace. Faites attention, parce que le Khawarij et le Mu'tazila, des sectes égarées, ils disent qu'il faut obligatoirement qu'il aille en enfer. Il faut obligatoirement que la menace d'Allah soit exécutée. Et ça, c'est un grand égarement avec lequel ils ont rendu mécréants des musulmans. Nous, nous disons qu'il est sous la volonté d'Allah. Comme Allah a dit dans le Coran, il a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Allah ne pardonne jamais qu'on lui donne des associés. Naam. Celui qui rencontre Allah avec shirk, nous disons qu'il va aller en enfer et aussi pour l'éternité. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. D'où le danger de shirk, ya ikhwan. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Et tout ce qui est en dessous de la mécréance et de l'associationnisme, Allah il le pardonne à qui il veut. Et il châtie qui il veut proportionnellement à ses péchés pour l'envoyer ensuite au paradis. Donc tout mouahid, tout muslim finira obligatoirement au paradis. Ou bien en entrant directement au paradis ou pas en, après, suite à un passage de purification. En enfer, comme Allah décidera, subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Maliki yawmiddin. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et de toi seul que nous implorons l'aide. Et ça, il dit, les hommes de science disent que ce verset, il englobe tous les sens de la religion de l'islam. Ce verset à lui tout seul. Le Fatiha, elle englobe tous les sens du Coran. Et ce verset, il englobe tous les sens de le Fatiha. Et par conséquence, tous les sens du Coran. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Car l'islam, c'est quoi en réalité? L'islam, c'est d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et ça, c'est le sens exact de la parole « Iyaka na'budu ».« Iyaka na'budu », c'est le même sens que la parole « La ilaha illallah ». Elles ont le même sens. D'accord ?« Wa iyaka nasta'in », c'est le même sens que la parole « La hawla wa la quwwata illa billah ». Et l'ensemble des deux paroles qui forment ce verset nous donne que nous devons adorer Allah seul sans rien lui associer, aimer croire en tout ce qui est adoré en dehors de lui, et savoir pertinemment que tu ne peux adorer Allah qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas adorer Allah avec ta force, avec ton intelligence. Tu adores Allah avec son aide et son soutien avant tout. Et c'est ça le sens de la hawla wa la quwwata illa billah et de wa iyyaka nasta'in. Pour ça, ce verset, yani, c'est un résumé de tout ce que indique la religion de l'islam. Ensuite, on arrive à la dua la plus bénéfique pour nous les musulmans, tous. La dua la plus importante, la dua la plus obligatoire. Et à travers cette dua la plus importante, la plus bénéfique, la plus méritoire, la plus obligatoire, se manifeste l'immensité de la miséricorde d'Allah. Regardez, Allah, de par sa miséricorde, il t'a imposé plus de 17 fois par jour de dire « Ihdina as-sirat al-mustaqim » « Guide-nous dans le droit chemin, dans le chemin de la droiture. » C'est une obligation pour toi de répéter ça 17 fois au minimum par jour pour rester musulman. Car celui qui abandonne la salat, il a abandonné l'islam. Donc regarde la miséricorde d'Allah. C'est obligatoire pour toi de demander ce qui t'est le plus bénéfique et la chose dont tu as le plus besoin durant toute ta vie. Tu demandes quoi? Qu'est-ce qu'on demande dans ce verset?
Ihdina.
Non, on demande l'hidayah, la guider. Et la guider, c'est la guider dans Tawhid, la guider dans le suivi du prophète Isa al-Salam, la guider dans les cinq piliers de l'islam, la guider dans les six piliers de la foi, la guider dans toute la religion. Et non seulement dans toute la religion, mais aussi la guider dans tes affaires mondaines. Allah, qu'Allah te guide pour trouver un travail qui correspond à ta religion, qui te permet d'adorer Allah correctement. Allah, il te guide pour trouver une épouse, pour avoir des enfants, pour avoir un logement, la nourriture. Dans toute chose, tu as besoin de la demande de guider d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu as besoin qu'Allah, après t'avoir guidé, qu'il te raffermisse sur cette guidée jusqu'à le rencontrer. Donc la guidée, c'est énormément de catégories et de variétés, de types de guidées dont tu as besoin, plus que l'air, plus que ton besoin de l'air que tu respires. Et si on coupe de toi l'air, qu'est-ce qui t'arrivera?
L'air.
Tu meurs au bout de quelques instants, quelques minutes, grand maximum. Et si on coupe de toi la guidée, c'est la mort du cœur. Même si ton corps, il se déplace, il bouge encore. Là, ton cœur, il sera mort. C'est pour ça que nous avons besoin de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette guidée, ce n'est pas n'importe quelle guidée. C'est une guidée dans le droit chemin. C'est une guidée dans le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? Qui peut me dire parmi vous qui est le droit chemin?
C'est la marche vers le paradis.
C'est la marche vers le paradis. Mashallah, quelle belle réponse. C'est Tawhid, mashallah. Naam, quelle belle réponse encore. Allahumma barik. C'est le suivi du prophète alayhi salam. C'est ça, salat al-mustaqim. Salat al-mustaqim, c'est de suivre le Coran et la sunna avec la compréhension des compagnons. C'est ce que nous appelons as-salafiyya, pour résumer. Mais sinon, c'est ça. C'est suivre le Coran, qui est la parole d'Allah, et la sunna, qui est les paroles du prophète, et autres que ses paroles. Là, qu'il en dit d'une manière globale, c'est sa parole, la parole du prophète, et de les comprendre comme ils étaient compris par les compagnons. Et de ne pas les comprendre comme les comprend les égarés et les innovateurs. De les comprendre comme ils étaient compris par Abu Bakr Siddiq. C'est pour ça un grand salaf a été interrogé. C'est quoi le droit chemin? Il a dit Abu Bakr. Abu Bakr et Omar. Pourquoi? Parce qu'on doit revenir à leur compréhension. Comment ils ont compris les textes? Car c'est les meilleurs hommes de cette communauté. Et ils ont été avec le prophète alayhi salam. Ils ont assisté à la révélation. Ils ont vu comment le Nabi alayhi salam a compris et comment il a mis en pratique. C'est pour ça leur compréhension est primordiale pour être dans le droit chemin. Et dinas sirat al-mustaqim. Comme si quelqu'un a demandé, oh Allah, on demande la guider dans le droit chemin. Définis-nous ce que c'est le droit chemin. Explique-nous ce que c'est le droit chemin. Allah a dit, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Ça, c'est une définition de ce que c'est le droit chemin de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, directement. Il a dit, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le droit chemin, en réalité, c'est le chemin de ceux qu'Allah a comblés de ses grâces et de ses faveurs. Et c'est qui ceux qu'Allah a comblés de ses grâces et de ses faveurs? La réponse se trouve dans un autre... Naam.
Et qu'ils ont suivi l'islam.
Naam. La réponse se trouve dans un autre verset. Allah Azza wa dit, وَمَنْ يَطَعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Notez avec moi ce qu'Allah a accompli de ses bienfaits. مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah a cité quatre catégories de personnes qui sont ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs et de ses bienfaits. Allah dit dans le sens approximatif de ce verset, ceux qui obéissent à Allah et son messager, alors ce sont ceux-là qu'Allah a comblés de ses faveurs parmi les prophètes. Ça, c'est la première catégorie. Tous les prophètes et messagers. La deuxième, les véridiques, comme Abu Bakr Siddiq. La troisième, les martyrs, comme Omar radiallahu anhu, comme Uthman, comme Ali, tous c'est des martyrs. Et la quatrième catégorie est les vertueux, les pieux, Et les pieux, c'est ceux qui les ont suivis. Donc ce sont ceux-là qu'Allah a comblés de ses faveurs et de ses grâces, qu'Allah nous maintient sur leur voie et jusqu'à le rencontrer, subhanahu wa ta'ala. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْسَرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. Et ensuite, Allah nous a mis en garde contre les deux catégories d'égarements. Les deux plus grandes catégories d'égarements. Donc après avoir demandé à Allah d'être sur le droit chemin, le chemin des prophètes et des compagnons, et des véridiques et martyrs, et de tous ceux qui les ont suivis minutieusement à la perfection, Allah nous a mis en garde contre, attention, les chemins de l'égarement. Et les chemins de l'égarement sont très très nombreux et multiples. Lakin, les plus grands parmi eux reviennent à deux causes, les causes de l'égarement. Donc ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, c'est ceux qui ont la science bénéfique et profitable et qui la mettent en pratique. Ceux qui ont deux points. Et la lacune au niveau de chaque point donne un grand courant d'égarement. Donc le premier, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, ceux, et non celui de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. C'est qui ceux qui ont encouru la colère d'Allah? C'est ceux qui ont la science et qui savent la vérité, mais qui ne la suivent pas, comme les juifs. Ceux qui savent la vérité et qui ne la suivent pas. Ça veut dire ils ont la science profitable, mais ils n'ont pas la mise en pratique. Et les compagnons avaient la science profitable et la mise en pratique, ainsi que ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits et de ses faveurs. Et le deuxième point, waladdallin, ni celui des égarés. Donc, oh Allah, préserve-nous d'être dans le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, c'est-à-dire ceux qui ont la science mais qui ne la mettent pas en pratique, et préserve-nous également d'être sur le chemin des égarés. Et les égarés, c'est ceux qui œuvrent et qui agissent, mais sans science, comme les chrétiens. Ils adorent Allah avec la science, avec l'ignorance. Ils adorent Allah avec l'ignorance. Et ça, c'est les deux grands égarements, les deux grands courants de l'égarement qui existent. C'est pour ça, pour échapper à ces deux égarements, il te faut deux points. Qui peut me les citer?
La science et la mise en pratique.
Tout simplement. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayran. Wa nafa'allahu bikum. Taïb, on va parler de la biographie, d'une biographie résumée d'un très très grand compagnon. Et ce compagnon, il a la particularité d'entrer en islam en étant très très jeune. Radiallahu anhu. Taïb, nous allons parler du grand compagnon Anas ibn Malik ibn Nadr Al-Ansari. Al-Ansari radiallahu anhu, Al-Khazraji. Donc il fait partie de l'Ansar. Il fait partie, vous savez qu'à Médine, il y avait deux tribus arabes. Il y avait l'Ansar, il y avait l'Khazraj et l'Aus. Et Anas, il faisait partie de la tribu de l'Khazraj. Et c'est un Ansari, donc c'est un Médinois, parmi ceux qui sont entrés en islam. Radiallahu anhu arda. Il était le serviteur, il était au service du prophète, alayhi salatu wassalam. Il était au service du prophète, sallallahu alayhi wassalam. Donc, sa mère, Umm Sulaym, radiallahu anha, quand le prophète, alayhi salam, est arrivé à Médine, elle s'est hâtée à aller vers le Nabi, alayhi salam, et elle lui a dit, ô messager d'Allah, chacun parmi les Médinois t'a offert quelque chose. Et moi, je n'ai rien à t'offrir que mon fils Anas. Elle lui a dit, je n'ai rien à t'offrir que mon fils Anas, radiallahu anhu. Elle lui a dit, en plus, pour être à ton service. pour être à ton service. Et il avait ce jour-là, il avait 10 ans. Quand Allah ramené, radiallahu anha, il avait seulement 10 ans. Et elle lui a dit, ça c'est Onais, il l'appelait comme ça, Onais. Elle lui a dit, c'est mon fils et c'est un garçon intelligent qui sait écrire, qui sait lire et écrire. Et je te l'ai ramené pour être à ton service. Et Nabi alayhi salam a accepté. Et ensuite, elle lui a dit, invoque Allah en sa faveur. Regardez. Regardez les mères intelligentes. Et Umm Sulaym, bintu Milhan. Allah alim, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Rumaysa bintu Milhan, radiallahu anha. Ils ont beaucoup divergé au sujet de son prénom. Lakin, elle est très connue par sa kunya, Umm Sulaym, radiallahu anha. C'était une femme très intelligente. Et rien que ce point, elle mérite qu'on parle d'elle dans une autre fois quand on parlera d'une sahabiya. Lakin, cette femme, elle a énormément de qualités. Rien que ce point indique sa grande intelligence. C'est ça la vraie intelligence. L'intelligence où elle sera une cause de bien immense pour son enfant. Et elle va tirer profit également de cela, car elle était la cause. Elle aura toute la récompense, radiallahu anha. Et donc, elle a ramené son fils et elle a demandé au prophète, alayhi salam, de faire dua pour Anas, radiallahu anhu, wa arda. Anas, radiallahu anhu, donc, il a commencé à être au service du prophète, alayhi salam, dès son arrivée à Médine, jusqu'à la mort du prophète, alayhi salam. Il a passé 10 ans au service du prophète, alayhi salam. Quand le prophète, alayhi salam, est décédé, il avait seulement 20 ans. Et il a pris énormément de science, et il a mémorisé énormément de hadith du prophète, alayhi salam, au point où c'est devenu le troisième compagnon qui a rapporté le plus de hadith du prophète, alayhi salam. Après Abu Huraira, le grand rapporteur de hadith de toute cette communauté, qui a rapporté plus de 5000 hadiths. Après lui, il y a notre mère Aïcha, et après notre mère Aïcha, il y a Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardah. طيب. Nabi alayhi salam, il a fait dua en faveur de Anas et cette dua a été réalisée et nous savons qu'elle a été exaucée car Anas a vu tout ce qui a été demandé, il l'a vu se réaliser pendant son vivant. Nabi alayhi salam a dit, il lui a fait dua, il a dit « Allahumma akthir mala ». Il lui a fait plusieurs dua, lakin cette dua a été rapportée. Et Nabi alayhi salam, quand sa mère déjà l'a ramené, il l'a embrassé et il l'appelait « Ya Bunay, fiston ». Il l'appelait fiston et il le considérait comme son fils. Il est resté à son service pendant 10 ans. Et pendant toutes ces 10 ans, Anas radiallahu anhu dit qu'il n'a jamais reçu de blâme ni de réprimande. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a grondé. Jamais il lui a dit pourquoi tu n'as pas fait ça. Ou pour une chose qu'il a fait, pourquoi tu l'as fait. Ou une chose qu'il n'a pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait. Allahu Akbar. Vous imaginez un enfant de 10 ans qui aime jouer, et malgré cela, il n'a jamais entendu une parole de réprimande ni de blâme de la bouche du prophète, alayhi salatu wasalam. Même un jour, il lui a demandé d'aller faire une chose importante pour le Nabi, alayhi salatu wasalam. Et Anas, en sortant, il a vu des enfants jouer, il est resté jouer avec eux, jusqu'à ce qu'il a oublié la demande du prophète, alayhi salatu wasalam. Et quand il a tardé, le Nabi alayhi salam est sorti le chercher, il l'a trouvé en train de jouer. Il lui a dit, tout simplement, va faire ce que je t'ai dit de faire. Saf. Il n'a pas dit, pourquoi t'es resté, pourquoi tu ne m'as pas écouté. Yana, c'est un enfant qui aime jouer, c'est tout à fait normal. Et en plus, ça indique l'excellence dans le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam. Imagine, tu travailles chez quelqu'un et tu ne respectes pas ce qu'il te dit. En général, il peut te virer dans la journée même. Et s'il est patient, il te garde une semaine. pas plus. Lakin ça c'est un Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le dua qu'il lui a fait, qui nous a été rapporté, il a dit Allahumma akthir mala, ou Allah multiplie ses biens et multiplie ses enfants. Et Anas, ils disent que c'était le Médinois le plus riche. Et c'était aussi l'homme qui avait le plus d'enfants. Il disait lui-même qu'il voyait autour de lui plus d'une centaine d'enfants. Pas ses enfants directs, mais ses enfants et ses petits-enfants. Ses enfants et les enfants de ses enfants. Donc il avait autour de lui plus d'une centaine d'enfants. Radiallahu anhu. Cette dua a été exaucée. De la dua du prophète alayhi salam. Anas radiallahu anhu, c'était un des plus grands savants des compagnons et il n'a cessé de profiter de la science du prophète alayhi salam pendant toutes ces dizaines d'années dans lesquelles il est resté en sa compagnie. Il a vécu longtemps après le prophète alayhi salam. Il a vécu plus de 80 ans. Il est décédé à l'âge de 103 ans, quelque chose comme ça. Plus d'une centaine d'années, il a vécu, radiyallahu anhu, après le prophète alayhi salam. Il a vécu plus de 80 ans. Et on a dit que le prophète alayhi salam, quand il est décédé, il avait 20 ans. Donc ça fait plus d'un siècle. Et Anas radiyallahu anhu, comme j'ai dit, il a participé avec le Nabi alayhi salam dans plusieurs batailles, même dans la bataille de Badr. Et à la bataille de Badr, il n'avait que 12 ans. Lakin, vous allez trouver que dans les livres des hommes de science, où il cite les compagnons, les 300 et quelques compagnons qui ont participé dans la bataille de Badr, en général, vous trouvez qu'il ne mentionne pas Anas, radiallahu anhu. Pourquoi il ne le mentionne pas? Pas parce qu'il n'a pas été présent. Il a été présent. Mais c'était un enfant. Il n'a pas combattu. Il était avec les hommes. Donc, il a accompagné le prophète, alayhi sallam. Lakin, en réalité, il était présent dans la bataille. Radiallahu anhu wa ardah. Et il a participé avec lui dans plusieurs de ses batailles. Radiallahu anhu wa ardah. Anas radiallahu anhu, c'était un grand savant parmi les savants des compagnons. Et c'est le dernier des compagnons qui est décédé. C'est le dernier des compagnons qui est décédé. Il est décédé dans la ville de Basra en Irak. Et c'était un grand adorateur aussi. Il adorait Allah, il faisait beaucoup d'adoration, radiallahu anhu. Comme nous le rapporte Abu Huraira, radiallahu anhu, il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un dont la salat ressemble énormément à la salat du prophète, alayhi sallam. Comme Anas. Il disait que ça, il faisait la salat comme le Nabi, alayhi sallam, radiallahu anhu. Même la salat de nuit. Yani, quand il était résident, quand il était voyageur, il avait une grande qualité dans sa salat, radiallahu anhu. Et a rapporté de lui, un de ses enfants, il a dit que son père, Anas radiallahu anhu, il faisait la salat de nuit jusqu'à ce que ses pieds se sont fissurés. Jusqu'à ce que ses pieds saignaient, comme le Nabi alayhi sallam. Tellement il faisait durer longtemps la récitation et la position debout, radiallahu anhu. Anas radiallahu anhu, il était connu pour garder les secrets du prophète alayhi sallam. Il n'a jamais divulgué un seul secret du prophète alayhi sallam, même pas à sa propre mère. Même pas à sa propre mère. Et ça a été rapporté qu'un jour, sa mère lui a dit, elle l'a interrogé au sujet du prophète, au sujet d'un point qui concerne le prophète, et lui a dit, jamais je ne divulguerai le secret du prophète. Elle lui a dit, c'est bien, ne le fais jamais. Il lui a dit, si je devais le faire, je te l'aurais dit à toi, ma mère, ma propre mère. Lakin, il n'a jamais divulgué un secret du prophète, alayhi salatu wassalam. Et aussi, Anas radiallahu anhu, c'était un homme dont les invocations étaient exaucées. Et ça, c'était connu. Yani, au point où ils disent, un jour, ça s'est rapporté authentiquement, un jour, il y a eu la sécheresse. Yani, pendant une période, c'était une période de sécheresse. et il n'y avait pas de pluie pendant un long moment, jusqu'à ce que les terres sont devenues arides. Et après, ils ont vu que Anas, il est sorti. Il s'est éloigné du village et des maisons. Et il a fait la salat tout seul. Quelqu'un l'a aperçu faire la salat tout seul. Il a invoqué Allah de faire descendre la pluie. Il y a eu un nuage qui est venu et qui a couvert sa terre à lui seul. Et il a plu jusqu'à ce que sa terre était rassasié de l'eau, et même ce qu'il avait autour était rempli en eau, et elle s'est limitée seulement, ce nuage s'est limité seulement à faire descendre la pluie sur la terre de Anas radiallahu anhu. Et après, le nuage est parti. Et c'est pour ça, Anas radiallahu anhu a eu énormément d'étudiants. Car il a vécu longtemps après le prophète, comme on l'a dit. Il a vécu plus de 80 ans. Il a eu presque 300 élèves, tous parmi les plus grands savants. Parmi les plus grands savants. C'est pour ça qu'ils ont dit, quand, le jour où il est décédé, le jour où Anas est décédé, à l'âge de 83 ans à peu près, à l'âge de 103 ans à peu près, ils ont dit, la moitié de la science est morte aujourd'hui. Ça, c'est un grand savant qui a dit ça, qui s'appelle Mouarriq. Il a dit, la moitié de la science est morte aujourd'hui. Ils lui ont dit, comment ça, la moitié de la science? Il a dit, quand, il a dit, ce tabi'i, c'est pas un compagnon qui parle, c'est un tabi'i. Il a dit, quand on avait des discussions avec des gens de l'innovation, et qui nous rapportaient des hadiths, comme quoi ils sont du prophète, on leur disait, venez, on va aller voir celui qui a entendu l'hadith directement de la bouche du prophète. Il les faisait ramener vers Anas. Et Anas, il disait, ça c'est un hadith, et ça c'est pas un hadith, c'est un mensonge. Et comme ça, il les ramenait à la vérité. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, après sa mort, la moitié de la science a disparu. Radiallahu anhu wa arda. Ça c'est en résumé ce qui concerne ce grand compagnon Anas radiallahu anhu, et qu'Allah agrée tous les compagnons de notre prophète alayhi salam. Nous allons nous arrêter ici. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik, mashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si jamais vous avez une question, je vous écoute.
أستاذ؟
نعم تفضل يا أبي.
Comment on appelle les gens qui vont au paradis?
Les gens du paradis. Les croyants. Les musulmans. Les mouahidines. Les suiveurs du prophète عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. Qu'Allah fasse qu'on soit tous parmi eux.
Amin.
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Tafaddal.
Oustad.
Naam ya akhi.
Est-ce qu'on on peut atteindre le degré de Sirat al-Mustaqim à notre échelle?
Sirat al-Mustaqim? Inch'Allah, on est tous sur Sirat al-Mustaqim. Mais on demande à Allah de rester ferme sur ce Sirat al-Mustaqim. Sirat al-Mustaqim, c'est d'être un mouahid. C'est-à-dire, tu ne fais pas de shirk. Et si jamais tu fais un shirk, tu te repens à Allah. Sirat al-Mustaqim, c'est d'être sur la sunnah. Et de ne pas adorer Allah avec les innovations. Amma, peut-être, ta question, est-ce qu'on peut atteindre le degré des compagnons? Naam? Lakin Sirat al-Mustaqim, il y a un minimum sur lequel on est tous, Inch'Allah. Tous ceux qui suivent, qui adorent Allah seul sans rien lui associer, et qui suivent le prophète, certes, ils sont sur Sirat al-Mustaqim. Lakin Sirat al-Mustaqim, c'est des degrés. Les uns au-dessus des autres. Et après, ce qui est important également, c'est de rester ferme sur Sirat al-Mustaqim. C'est pas seulement d'être pendant une phase de notre vie sur Sirat al-Mustaqim et après de dévier et de s'égarer. Ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de rester sur Sirat al-Mustaqim jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Oustaz?
Naam, ya akhi.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'au degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Tout est possible pour Allah. La question, comment y arriver?
Allah.
En excellant dans l'adoration d'Allah, en suivant le chemin du prophète à la perfection. Qu'Allah nous le facilite à tous.
Amen.
Alaykoum salam. Barakallahu fikoum wa jazakoum allahu khayran. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh.